Les pieds dans le parc.
Pour mettre les pieds dans le secteur le plus haut et le plus au nord du parc naturel régional des Monts d'Ardèche, il faut, pendant la saison hivernale, les accompagner de chaussettes en laine et accessoirement de raquettes. C'est chose faite pour partir à la découverte des zones Natura 2000. On en dénombre 3 sur le territoire du parc, classées espaces naturels sensibles. C'est donc sur les traces de la chouette de Tingmalm que nous partons aujourd'hui, en compagnie de Damien Cocâtre, chargé de mission espaces naturels sensibles et zones Natura 2000. Il nous en dit plus sur ces zones et sur ce rapace méconnu.
Ici, on est dans un site Natura 2000 et espace naturel sensible où on a la chance d'avoir la chouette de Tingmalm. Et donc, on fait des recherches, on cherche cette espèce parce qu'elle indique la qualité, la bonne qualité des forêts, en fait. On appelle ça une espèce parapluie, ce qui veut dire que quand elle est présente, il y a toute une guilde d'espèces qui sont également présentes. Si elle est là, c'est que toutes les autres espèces sont là, donc c'est un bon indicateur de la biodiversité de nos forêts, en fait. Au parc, on gère différents sites Natura 2000 et espaces naturels sensibles, donc sur le Tanargue, sur le Gerbier Mézin, la vallée de l'Arieux également. Donc on fait des suivis, on recherche cette espèce et on l'a trouvée sur le Tanargue et sur le Gerbier Mézin. On a quelques données, c'est une espèce qui a toujours été présente, mais on ne sait pas si elle se reproduit, s'il y a une population importante. Et c'est ce qu'on continue à rechercher. Donc on fait des sorties la nuit et on essaye d'écouter le chant de la chouette. C'est le seul moyen pour pouvoir la détecter en fait assez facilement. Elle est très discrète, mais c'est vrai qu'elle est assez curieuse. Donc si on émet son chant, donc là on peut le siffler. Hein.
Ah, vous n'avez même pas besoin d'appôt.
Non, voilà, on arrive à la refaire. C'est un chant assez simple, parce qu'il y a plein d'autres chouettes qui sont très compliquées. Celle-là, c'est assez simple, et elle va nous répondre. Donc le mâle, s'il est dans le coin, il va répondre, et comme ça, on pourra noter qu'on a un mâle chanteur dans le coin. Le lendemain, on peut revenir sur place et essayer de chercher la loge. Donc la chouette de Tingmalm niche dans un trou d'arbre qui a été fait par le Pic Noir. Et donc elle niche dans cette loge et on essaye de trouver la loge. Et ça permet derrière de mettre en place des actions de préservation. C'est-à-dire qu'on va aller soit rencontrer les propriétaires, ou bien souvent on est dans une forêt publique, donc soit communale ou domaniale, hein, donc qui est gérée par l'Office National des Forêts. Et donc ensuite, on va aller mettre, si possible, l'arbre. On va essayer de préserver l'arbre. On va pas le couper. Donc on va demander au gestionnaire de pas couper l'arbre, en fait. On va le lever au GPS. Mmh. Et puis après, on va voir avec l'agent forestier local pour qu'il le coupe pas. C'est vrai qu'on peut mettre des étiquettes parfois. On peut même le labelliser Natura 2000. On a des petites étiquettes pour que quand le forestier passe, il le marque pas avec le marteau, quoi. La biodiversité, on a 3 axes de travail quand on s'occupe d'un site naturel. C'est déjà améliorer les connaissances, donc c'est tout ce qu'on fait là, le suivi, recherche des espèces, où elles sont. On a tout ce qui est restauration et conservation des milieux, donc c'est ce que je disais, quand on repère un arbre, on va aller le marquer, on va chercher à le préserver. Puis il y a le troisième axe qui est très important, qui est tout ce qui est communication, sensibilisation du public. Donc là, comme on l'a dit, on travaille beaucoup avec les accompagnateurs en montagne, mais ça peut être avec les scolaires, on a un programme d'éducation au territoire au parc, on fait des sorties, voilà, c'est vraiment ces 3 axes-là. Et on va vers un tourisme d'observation, on essaye de jouer la carte du patrimoine naturel comme source de développement touristique, en fait. Le principal objectif, c'est préserver les milieux et la biodiversité. Et pour cela, ben, on a toute une série d'actions qu'on mène. De toute façon, la préservation de la nature, elle passe par de la concertation. Il faut vraiment associer un maximum de personnes. Et c'est pour ça qu'on a un comité de pilotage pour chaque site Natura 2000 et espace naturel sensible, sur lesquels on met tout le monde autour de la table et on discute, on échange. On partage les infos, qu'est-ce qu'on a découvert cette année, qu'est-ce qu'on souhaite faire pour l'année suivante, et on se réunit comme ça assez régulièrement. Ouais.
Les missions du parc sont claires, préserver, éduquer, informer, valoriser et aussi étudier ces sites rares et précieux. Pour ce faire, s'adjoindre à la collaboration des acteurs de terrain est essentiel, et si la méthode profite à tous, elle offre aussi une grande valeur ajoutée pour les visiteurs du territoire. Comme nous l'explique Julien Lost, accompagnateur de moyenne montagne et naturaliste passionné, lui aussi sur les traces entre autres de la chouette de Tingmalm.
Dans le massif du Mézin-Gerbier, à mi-chemin entre ces deux montagnes, dans une forêt, une belle et très sapinière de montagne. On vient régulièrement avec nos groupes en raquettes, les scolaires. Il y en a qui traversent toute la France pour venir en vacances dans notre massif et qui découvrent avec avec joie que voilà, notre massif de moyenne montagne peut avoir un bel enneigement et pour profiter de belles randonnées en raquette. Il y a des locaux bien sûr qui montent lorsqu'ils peuvent en week-end ou les mercredis après-midi même des fois. Et puis on a des gens qui montent de la vallée du Rhône, d'Aubenas, de Saint-Étienne, de Lyon, ça fait un peu moins loin. Et puis bon, après on a les vacanciers, là on est rentré dans les zones de vacances. Les vacanciers viennent de toute la France. On ne joue pas juste le rôle de guide et de faire un itinéraire d'un point A à un point B sans expliquer un petit peu ce que l'on découvre. Donc bien entendu au niveau du patrimoine, de l'histoire, des histoires locales, etc. Mais bien entendu, sur la faune et la flore, on essaie d'apporter vraiment une plus-value du rando de randonnée sur la découverte de la faune et de la flore. Et on essaie de pointer un peu du doigt ce que les gens ne verraient pas seuls. Voilà, donc là, on est dans une forêt, oui, quand même assez ancienne. Et puis surtout, une forêt un peu typique des zones de montagne qu'on aurait. Si, sans intervention humaine, si on laissait évoluer la forêt à nos latitudes et à nos altitudes, on aurait une hêtraie sapinière. Donc là, on est avec des essences locales, des espèces autochtones d'arbres. Pas des espèces de pins ou de douglas qui ont été importées d'ailleurs. On a bien les espèces locales présentes en montagne ici. Pour parler de la chouette de Tegmalm, là on en est au stade pour le moment de sa prospection, presque même de sa recherche. Il y a des données très très ponctuelles. C'est vrai que c'est une petite chouette magnifique avec les yeux d'or. Elle apprécie tout à fait ces milieux-là où il y a des arbres de grosse taille, donc forêt ancienne parce qu'il y a des arbres de grosse taille. S'il y a ces arbres de grosse taille, il y a la présence du pic noir qui fait que le pic noir va creuser des trous dans les troncs pour creuser sa loge lui-même. Et par la suite, si jamais il abandonne sa loge, ses logements vacants, entre guillemets, sont disponibles pour tout un tas d'animaux et entre autres cette petite chouette de montagne. Donc c'est vrai que quand on randonne aussi avec les randonneurs et qu'on passe dans ces forêts-là, on dit ouvrez l'œil, essayez de voir si on ne voit pas une petite loge quelque part. Ça permet aussi d'aborder justement les mesures de protection, les mesures de prospection, de recherche de ces animaux et de parler aussi du travail que font les collectivités, le parc naturel régional dans ces mesures de recherche, d'inventaire, de protection des forêts. Tout m'intéresse, le contact avec les gens, le fait de les sensibiliser, de les informer à la nature et puis simplement les émerveiller, les rendre sensibles et les ouvrir à cette contemplation dans la nature. Il y a de nombreux points où on peut se réjouir au niveau de la faune et de la flore qui se portent plutôt bien dans notre massif, et puis il y a aussi des points d'inquiétude. Mais voilà, ça aussi, c'est important de partager ça avec le public, avec les gens, parce que ils sont pas conscients de tout ça, eux, ils ont l'impression justement de venir ici et que ils sont dans un milieu vraiment protégé et tout ça, mais derrière, il faut leur expliquer justement toutes les mesures de protection qui font qu'on est encore un milieu préservé, et puis bien entendu les sensibiliser pour qu'eux-mêmes soient conscients des problématiques et qu'eux-mêmes soient acteurs une fois qu'ils sont partis du massif. La préservation de l'environnement se joue pas quand on vient dans les zones préservées ou de montagne, mais ça se joue un peu partout, donc... Ce rôle-là, on le joue à chaque fois qu'on a des groupes, d'essayer de les sensibiliser.
Plus au nord encore, la commune de La Rochette, située elle aussi sur le territoire du parc naturel régional des Monts d'Ardèche, offre aux habitants, aux randonneurs et aux curieux la possibilité d'observer une tourbière ancienne. Le parc les accompagne aussi dans cette démarche de valorisation et de labellisation, comme nous le précise Serge Charpenet, le maire de la commune.
Il y a une dizaine d'années, on s'est aperçu donc sur la forêt communale qui est située sur le pied du Mézin, qu'il y avait deux ou trois tourbières qui à ce lieu-là. Dans cette tourbière, donc, on s'aperçoit que il y a plein de petites bestioles, de la petite grenouille, je dirais la rainette. Il y a énormément de choses. C'est vraiment très intéressant cette tourbière. Elle a pas mal de points positifs, je dirais, où on peut découvrir pas mal de choses. La zone Natura 2000, alors en plus, donc, nous aide donc à préserver certaines zones où je dirais on ne peut pas faire n'importe quoi. Cette tourbière, donc, elle est située en plus sur un chemin de randonnée, hein, GR7. Qui fait le tour du Mézin, bon, qui va pas loin. Donc, si vous voulez, il y a un potentiel énorme de gens qui viennent, qui passent à côté et qui ne la voient pas forcément. Ils ne savent pas qu'il y a une tourbière, un aspect touristique à mettre en avant. Donc, c'est pour ça que nous avons vu avec certaines personnes, que ce soit l'école du vent qui est située sur Saint-Clément ou que ce soit avec certains guides des Estables, où il pourrait y avoir des découvertes, donc faire venir des écoles, sachant que, je veux dire, dans ces zones humides, nous avons un potentiel énorme, comme je le disais tout à l'heure. Ça permet aussi aux randonneurs de s'arrêter et de regarder et de voir des choses qui ne pensaient pas qu'elles existent sur ce coin-là. Et d'apprendre des choses aussi. Bien sûr, je pense qu'il nous faudra mettre des panneaux. Heureusement que nous avons eu le parc, parce que c'est grâce au parc, je dirais, qui nous a vraiment aidés à améliorer et à nous faire voir ce qu'on pourrait gagner, je veux dire, par rapport à ça, je veux dire, si vous voulez, c'est grâce, voilà, c'est le parc qui nous a fait reconnaître que ça serait un point positif pour notre commune et pour le secteur. Nous avons un projet de 70 000 euros à peu près pour l'aménagement. Donc il y a plein de choses qu'on va faire dessus et faire des petits ponts pour éviter de passer dessus et aménager un chemin et faire des petits guets pour qu'on ne traverse pas, mais qu'on d'une petite hauteur on puisse voir donc cette tourbière et des panneaux donc qui vont expliquer un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut voir. Et qu'il faut protéger. Si nous n'avions pas essayé de faire quelque chose aujourd'hui, la tourbière, peut-être d'ici quelques années, serait, on ne sait pas dans quel état. Aujourd'hui, la population, donc je dis quand j'en parle, on ne connaît pas bien souvent son coin. Bien souvent, on oublie, on y passe sans voir ce que c'est. On a des gîtes communaux qui aujourd'hui, grâce donc à ces circuits de randonnée et les gens qui vont venir sur la commune, vont nous amener, je veux dire, quelque chose en plus. Je veux dire, va faire venir amener du monde sur la commune de La Rochelle et sur le secteur des Mazins.
En résumé, les espaces naturels sensibles et les zones Natura 2000 du parc naturel régional des Monts d'Ardèche sont à la fois une porte d'entrée sur le territoire pour des visiteurs d'ici ou d'ailleurs, des sujets d'études ô combien précieux pour les naturalistes et professionnels locaux, et évidemment le plus bel outil pédagogique qui soit, même pour ceux qui, comme moi, n'ont pas usé les bancs de l'école depuis longtemps. La preuve, si besoin en était, que même avec des raquettes, il n'est jamais difficile de mettre les pieds dans le parc.
Les pieds dans le parc, réalisé par Fréquence 7, RCF Vivarais, Radio des Boutières, avec le parc naturel régional des Monts d'Ardèche et le soutien de la région Rhône-Alpes.